Bien, heureux de vous retrouver, surtout des personnes que vous n'avez pas eu la joie de voir depuis un certain temps. C'est un plaisir et une responsabilité à chaque fois de vous apporter la parole. Nous continuons et nous terminons ce que nous avons entamé il y a plus d'un an, c'est-à-dire l'étude de l'Épître aux Romains. Nous en sommes tout à la fin, puisque nous arrivons au chapitre 14, et j'entamais même un peu le chapitre 15, et ensuite il en restera un seul qui suit des salutations. C'est un chapitre, Yann, la semaine dernière, vous avez parlé d'un chapitre qui était aussi assez difficile, c'était la soumission aux autorités. Celui d'aujourd'hui va nous parler de la tolérance entre frères et sœurs, si je puis dire, même si le mot me semble pas exactement adapté. Alors c'est un sujet qui n'est pas du tout dans l'air du temps. En venant ici, ce matin, j'écoutais la radio, et il y avait un débat sur le sport à l'école, sur comment faire des bons athlètes pour 2024, qu'on puisse rapporter des médailles. Parce qu'on rapporte plus de médailles chez les handicapés que chez les valides. Donc ça prouve au moins que notre système d'aide aux handicapés est plus au point que pour les valides. Et tout le discours des invités, c'était compétition, gagner devant l'autre, donner dès l'enfance à l'école l'envie d'être devant, de se battre, etc. Parce que c'est la vie, paraît-il, certes. Et ce que nous allons lire là, c'est a priori exactement le contraire. Et donc c'est une nouvelle démonstration que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. En plus, ce chapitre-là va aborder des questions qui parfois posent problème au sein de l'Église, puisque c'est surtout autour de ces questions-là que parfois se mettent en place les frictions et les incompréhensions. Alors, comme à chaque fois que je prends la parole sur les Romains, je refais un très rapide exposé de ce qu'on a déjà vu, parce qu'il faut remettre dans le contexte, et là encore plus. Donc, en 30 secondes pour ceux qui avaient oublié ou les absents. Donc, Paul écrit à la communauté de Rome, de l'Église où il y a des Juifs et des païens mélangés. Il est au terme de son troisième voyage missionnaire, et donc il prépare son voyage. Qu'il espère bientôt proche pour Rome, même s'il ne sait pas encore qu'il faudra attendre 2 ans et sa venue en tant que prisonnier pour y parvenir. Donc on avait dit que cette épître était l'exposé le plus complet des Écritures, puisqu'elle donne la doctrine du salut par la foi. Donc c'est important parce que si Paul a placé le chapitre 14 à la fin, ce sujet-là, c'est parce que tout a été dit avant pour arriver à ce qui va nous annoncer. Donc l'universalité du péché, vous vous souvenez, la culpabilité de tous étant démontrée, il annonce l'évangile, maintenant Dieu nous justifie par la foi en Jésus-Christ. Vous vous souvenez, il avait pris l'exemple d'Abraham, il prouvait que par cet exemple-là, Dieu imputait la justice à l'homme uniquement à cause de sa foi et non plus du tout à cause de ses œuvres. Et cette justice divine avait des conséquences pratiques pour nous, à nous qui croyons. Elle nous donne la paix avec Dieu et l'assurance de notre salut. Et vous vous souvenez, il avait fait la comparaison à l'humanité entière entraînée dans la mort par la seule faute d'Adam. Eh bien, l'humanité retrouvait la vie par le seul acte d'obéissance de Jésus-Christ sur la croix. Cependant, une fois que ces fondamentaux sont posés, toute cette grâce qui est mise en route, cette grâce de Dieu n'autorise pas le croyant à vivre dans le péché, car en Christ, nous sommes une nouvelle créature au service de la justice. Donc nous ne sommes plus obligés, vous en souvenez, d'obéir à la loi, car nous sommes sous le régime de la grâce en Jésus-Christ. Désormais donc, dit-il, l'Esprit de Dieu habite en nous, nous conduit, nous éclaire, inspire nos prières et nous soutient. Il est fait un moment allusion au peuple d'Israël qui s'est mis à l'écart à cause de son endurcissement, et du coup Dieu offre le salut à tous les peuples, donc à nous aussi. Mais un jour, Dieu réintégrera et sauvera par grâce le peuple élu. Et ensuite, à partir du chapitre 12, une fois que tous ces fondamentaux de base, enfin qui vraiment structurent notre foi et notre existence, l'Épître conclut sur la vie des croyants. Après la grande histoire collective, on pourrait dire quasiment géopolitique, qui a été mise en place depuis Adam, il va parler de la vie pratique et quotidienne des chrétiens de Rome et donc de la nôtre, puisque les Écritures sont faites aussi pour nous. On passe du collectif, de la grande histoire, à l'individuel, à toi, à moi, à nous. Et dans le chapitre 12 et 13, il était question de notre rapport aux autres dans le monde, au sens large, autant avec nos frères et sœurs qu'avec le monde en général. Le fait que l'Église formait un seul corps où chacun avait sa place afin de se tenir dans le monde d'une façon cohérente, de nous aimer les uns les autres autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les personnes qui ne sont pas chrétiens, et puis le chapitre de la soumission aux autorités qui, là encore, nous plaçait par rapport au monde qui nous entoure. Et on arrive au chapitre 14, qui est en fait le dernier chapitre. Ensuite, il y a encore des choses à dire, mais ce n'est plus dans l'ordre de quelque chose qui nous apprend. C'est le bout de la démonstration. Après être parti de si loin et de si collectif, on arrive vraiment au bout du bout, c'est-à-dire nous, à titre individuel, c'est notre rapport face à notre frère, à notre sœur, dans la foi. Donc là, on est vraiment dans l'Église. On sait pourquoi on est dans l'Église, d'où vient cette Église, d'où vient la foi que nous partageons, tout ça, je viens de vous le rappeler, c'est ce qui a été dit pendant toutes les études que nous avons pu faire. Et on arrive, en fait, tout ça n'a d'utilité que pour vivre au quotidien. Sinon, c'est des paroles jolies, symboliques, philosophiques. Mais si ça n'a pas d'utilité pratique, ça ne sert à rien. Donc, les utilités pratiques ont déjà été dites déjà dans le chapitre 12 et 13, et elle se termine dans le chapitre 14. Et nous revenons, en quelque sorte, au problème entre les Juifs et les païens, tous chrétiens de l'Église de Rome, à qui cette lettre s'adresse. Manifestement, s'il leur écrit, c'est qu'il y avait des problèmes qui polluaient cette Église, on l'avait dit dès le début, quand Yann avait présenté l'Épître en général, puisque certains étaient des Juifs convertis au christianisme, mais qui transportaient avec eux toute leur tradition judaïque, sur le sabbat, sur les nourritures, etc. Et puis les autres, c'était des païens fraîchement convertis qui arrivaient frais de port, si je puis dire, et qui voulaient juste être chrétiens et pas avoir à se taper tout le poids de la tradition millénaire juive, dont la fameuse circoncision. Donc ça polluait leur Église, mais rassurez-vous, ça pollue aussi les nôtres. Hein. Et pas que la nôtre, là je parle au sens large, toutes les églises, et on a tous chacun des expériences, on sait qu'aucune église n'est à l'abri de ces tiraillements, de ces soucis sur ce qu'on appelle les contraintes que l'on se met à nous-mêmes pour le bon fonctionnement de l'église. On pense que c'est des bonnes raisons, mais ce sont des contraintes qu'on met sur les frères et sœurs, qu'on pense être des contraintes bibliques et qui ne le sont absolument pas. Ce sont des traditions, des choses qui viennent de beaucoup de réseaux et qui prennent beaucoup de place dans la vie quotidienne, mais qui ne sont en aucun cas des interdictions bibliques. Les interdictions bibliques, on les connaît. Yann les a lues la semaine dernière, par exemple au chapitre 13, quand Paul repart des commandements, en effet des commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout cela, ça c'est des choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord, le mensonge, le vol, le meurtre, la violence, la convoitise, nous sommes d'accord sur ça. Personne ne va se lever et dire, écoute, tu dis que le viol est interdit, écoute-moi, peut-être on peut en discuter. Non, ça n'existe pas, c'est pas possible. On va être tous d'accord sur ça, évidemment. Nos disputes ne viennent pas de là. Alors, c'est pas moi qui parle, hein, c'est vraiment le chapitre 14 que je vais étudier ensuite verset par verset, mais je veux le mettre dans son contexte général. Nos disputes, elles viennent de mille détails. Alors, Paul, dans ce chapitre, va parler de la nourriture et des jours sacrés ou non, mais on peut élargir, par exemple, aux vêtements, des histoires de jupes trop longues, trop basses, de foulard, on ne met pas, on met. Je me souviens, il y a très longtemps, j'avais fait un journal chrétien avec quelqu'un qui s'appelait Stéphane Viglietti, je ne sais pas si vous l'aviez connu, qui était un type remarquable, qui est mort malheureusement en missionnaire en Afrique, ça s'est très mal passé. Et il faisait partie d'une église où, dès que quelqu'un montait sur la chaire, il fallait qu'il ait une cravate et un costume. Sinon, il ne pouvait pas prendre la parole, ça faisait scandale. Il avait écrit un article dans le journal que nous avons fait qui s'appelait Ne faites pas de la cravate un garrot. Oh, ça s'était très mal passé, évidemment, mais l'idée, elle était là. C'était pas idiot. Donc, de nos habitudes alimentaires, il y en a qui vont dire il faut être vegan, il faut être bio, parce qu'il faut sauver la nature, parce que Dieu, c'est la nature. Si tu manges un truc qui n'est pas bio, tu n'aimes pas la nature. Pas de viande, la souffrance animale. Donc, on peut partir dans tous les sens. De nos loisirs, la télévision, est-ce qu'on peut regarder toutes les émissions, les danses, est-ce qu'on peut danser, est-ce qu'on peut aller au cinéma voir des choses, musique, lecture. Là encore, je me souviens, j'étais à une semaine, j'avais 25 ans, j'étais allé en Suisse faire une semaine de stage biblique avec Georgette Thuriot. Et le soir, dans la petite ville qui était à 5 km, il y avait un film, alors, je sais plus ce que c'était, ça devait être un Jurassic Park ou un truc comme ça. Et donc j'avais dit à une jeune fille qui était toute sympa, elle dit, écoute, ce soir, parce qu'on est libre, viens, on va aller voir ça, c'est sympa, ça va nous détendre. Alors là, j'avais l'impression d'avoir mis la pauvre jeune fille était là, mais je ne peux pas, je ne peux pas, j'ai pas le droit, c'est pas bien. Et moi, je tombais des nues devant cette réaction-là. Bon, j'avais été voir le film, je l'avais amené, le lendemain, je m'étais fait pourrir, donc bon, très bien, c'est pas grave, c'est pas grave. De nos convictions politiques, alors là, par exemple, quand les élections viennent, on voit bien qu'il y a des groupes qui se mettent en place. Je suis plutôt à droite, plutôt à gauche, il faut sauver les immigrés, pas les immigrés. Tout est. Alors, je ne parle même pas du pass sanitaire, des vaccins, où on est en plein dedans. Et ça peut détruire des choses et ça peut aller loin, alors que ce sont des choses dont la Bible ne parle pas du tout. Hein, c'est vraiment nous qui nous mettons ces contraintes-là au nom de choses que l'on croit bibliques et que de bonne foi, a priori, on veut imposer. Alors, je ne parle même pas de la place de la femme dans l'Église, parce que là, on est devant des traditions quasi ancestrales qui vont s'affronter sur non pas des textes, mais sur des manières de lire les textes. Et tout ça, ce sont des vrais sujets de discorde, et c'est de ça dont parle Paul, au-delà de la nourriture et des jours du sabbat. On ne va jamais se battre sur le millénium. Il y a millénariste, pro-millénariste, post-anti, à la limite, on ne sait même plus trop. Et ceux qui savent, oui, bon, c'est pas très grave. Mais par contre, se battre sur ma cravate que je mets pas, sur le pass sanitaire, ou sur est-ce qu'une femme peut être présidente ou pas, là, on peut s'écharper grave. C'est pour ça qu'on se sent chez soi normalement. Dans notre église. Quand on choisit une église et qu'on y reste, c'est parce qu'on s'y sent bien, mais ce n'est pas une question de foi, parce qu'on peut aller à l'Assemblée de Dieu, maison de la Bible, pentecôtiste, catholique, c'est le même Dieu et on va se mettre d'accord sur 1 000 choses, et les petits détails, ils ne vont pas nous embêter. Par contre, on reste dans cette église parce que là, les femmes sont au fond, ou là, c'est une femme qui est pasteur, parce que là, on est tous de droite, là, on est tous des ouvriers de gauche. Et intrinsèquement, on le sent. Et c'est ce qui fait la force de l'Église protestante au sens large, c'est qu'elle a su créer des niches où chacun se sent bien dans sa vie d'humain qui n'a rien à voir avec la foi. Et par exemple, tout le monde a déjà été dans les églises de Paris, il y a des grandes églises qui sont remplies de gens noirs, africains, etc. Et nous, on est dedans, on partage la même foi, mais on sent bien qu'il y a plein de choses dont on n'est pas dans les mêmes façons de réagir sur des tas de détails. Et réciproquement, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein. Je dis pas, il existe des blancs, il existe des noirs, il existe des jaunes, il existe des verts, etc. Mais c'est vrai aussi pour des raisons de caste sociale. Enfin, on se réunit en niche parce que ça nous rassure d'au moins ne pas avoir à se battre sur des choses qui nous font du mal au quotidien. Paul écrit aux Romains, donc là, parce que justement, eux se battent sur des détails. Alors, pas sur la foi, mais sur la circoncision, la nourriture et les jours à respecter. On le verra. C'est des lois donc venues du monde juif et dont les païens qui étaient nouveau convertis n'avaient rien à faire. Pareil chez nous. Entre ceux, rien que dans cette église, ceux qui sont issus d'une famille chrétienne, qui ont baigné là-dedans quand ils étaient petits, les ex-catholiques, les ex-darbistes, les ex-pentecôtistes, les ex-athées, c'est le carambolage. C'est le carambolage. Et pour prendre un exemple tout tout bête, entre une jeune féministe athée qui va venir dans notre église, qui est née à la fin des années 90, qui s'intéresse à Dieu et qui va rencontrer une dame mûre, beaucoup plus âgée, issue d'une famille protestante bien en place de traditionnelle, à un moment, le clash est attendu. Pourquoi est-ce que la femme n'est pas là? Pas parce que va dire cette dame-là, mais moi je ne comprends. Encore une fois, je ne prends pas, je dis pas que l'un ou l'autre a raison ou tort. Je dis que tous ces détails est sujet à incompréhension, est sujet à problème, et c'est ça qui peut très vite pourrir la vie d'une église. Et c'est pour ça que Paul écrit aux Romains. Et c'est pour ça que Paul fait les 13 premiers chapitres. Pour bien dire, attention, regardez d'où on vient, regardez quel est le plan de Dieu. Et quand vous avez tout compris ça, maintenant on va s'attaquer à vos petits soucis qui font que votre église, qui est censée être fondée sur le plan de Dieu extraordinaire dont je vous ai parlé, elle est peut-être en passe d'éclater pour des choses qui ne méritent pas d'avoir une telle force, un tel pouvoir. Alors, comme on est tous d'accord avec la démonstration des 13 premiers chapitres qu'on a étudiés, qui pourrait en contester une ligne, alors peut-être déjà le chapitre précédent sur les autorités, on pourrait, déjà c'est un peu moins clair, mais enfin la démonstration de Yann la semaine dernière nous a un peu éclairé, qui est le plus important. Donc il aborde les futilités, mais j'emploie ce mot à dessein, qui nous pourrissent au quotidien d'Église. Et son préambule est très clair. Dès le premier verset du chapitre 14, il met les pieds dans le plat. Je lis, accueillez celui qui est faible dans la foi, accueillez celui qui est faible dans la foi. Donc ce n'est pas très pédagogique comme prologue. Moi, j'écrirais à des gens qui ont des soucis de vie commune, je ne dirais pas, écoutez, vous, il y a accueillez le faible, parce que si on accueille le faible, ça met chacun d'entre nous dans la position du fort. Et celui qui ne pense pas comme nous, sur les détails, dans la position du faible. En termes de diplomatie, quand on va négocier, si on arrive tout de suite, écoute, toi tu es le faible, moi je suis le fort, mais on va discuter, on va trouver une solution, pour être sûr que la négociation, elle est très mal, très très mal partie. Et pourtant, lui, il commence comme ça. Mais juste après, il dit, donc accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Donc immédiatement, cette fameuse faiblesse dans la foi, il la met au niveau des opinions. Il ne la met pas au niveau des actes de foi, il ne la met pas au niveau de tout le lourd dont on vient de parler. Il le met au niveau des opinions. L'opinion n'a pas force de loi. L'opinion, par principe, elle est fluctuante, voire dérisoire au regard du plan de Dieu pour nous. Qui d'entre nous ici n'a pas changé d'opinion après un débat, etc. Donc, ce faible dans la foi, il est tout de suite à relier au fait que c'est une faiblesse par rapport à des opinions, et non pas par rapport à tout le reste dont on a déjà parlé, sur lequel on est tous d'accord. Alors, qui est le faible dans la foi? Et qui est le fort dans la foi? Il faut se poser cette question maintenant. Alors attention, ce n'est pas le fort et le faible en soi. C'est vraiment dans la foi. C'est important que ça soit relié à ça. Est-ce qu'il y a un curseur clair? Oui, très clair. Et là encore, Paul met les pieds dans le plat dès le verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, ça va. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. C'est-à-dire que celui qui est fort, c'est celui qui mange de tout. Et le faible, c'est celui qui ne mange que des légumes. Donc celui qui est faible dans la foi, c'est celui qui se met une barrière. Là, c'est de la nourriture, mais ça peut être n'importe quelle autre barrière. On en a parlé précédemment. Ça, c'est très très important. Paul, c'est pas un diplomate au sens je vais essayer de gérer tout le monde en même temps, comme diraient certaines personnes que l'on connaît. Lui, il dit les choses. Vous êtes fort ou faible sur des critères qui ne sont pas importants, vos opinions. Et celui, si on doit parler de ces opinions-là, celui qui est fort, c'est celui qui est libéré des contraintes et des barrières. Paul dit clairement que le fort dans la foi est celui qui est libéré des contraintes. Tout l'épître romain ne parle que de cela. Si on relit depuis le début, Dieu est venu libérer les hommes du péché, de la loi, de la peur. Le nouvel homme, la nouvelle femme en Christ est un humain libre. Libre par rapport à la circoncision, libre par rapport au péché d'Adam, libre par rapport à la faute d'Israël. C'est tout ce qu'on a lu dans les 13 premiers chapitres. Nous sommes assujettis aux règles du monde de par notre condition, on ne peut pas s'en débattre, mais nous sommes libres dans notre tête, comme disait Michel Berger dans sa chanson Diego. Au fond de sa prison, tout était mal, il était bourré, pourtant il était libre dans sa tête. Jacques, l'apôtre Jacques l'a écrit, la loi fondamentale, c'est la loi de la liberté. Alors évidemment, ça mériterait des réunions perpétuelles pour en parler. C'est pas la liberté de faire n'importe quoi, c'est pas la licence, mais c'est la liberté d'être libre de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous lie, de tout ce qui nous fait du mal, de tout ce qui nous retient en arrière, de tout ce qui nous punit. Et nous en rêvons tous de ça. Être libérés de nos doutes, de nos désirs, de nos peurs, de nos traditions, de nos superstitions, qu'on trimballe tous ici, chacun avec son éducation, son enfance, et dans toutes les églises avoisinantes. C'est l'objectif de Dieu pour nous, d'être libre. Et cette liberté-là, on a tous fait à un moment ou l'autre l'expérience sur un truc qui nous empoisonnait la vie, dont on sentait qu'on n'était pas libre. Ça peut être, chacun voit midi à sa porte sur ce truc-là. Et se sentir soudain libéré de ce besoin, de cette attente, c'est un bonheur et une joie extraordinaire. Alors, cette libération totale, c'est l'objectif de Dieu pour nous. Mais qui est-ce qui l'atteint? Dans notre peau actuelle, dans notre condition actuelle, personne. Personne, personne. Regardons-nous tous les uns les autres. Nous nous croyons forts dans la foi, à un moment ou l'autre, mais rappelez-vous, vous connaissez le célèbre proverbe, on est toujours l'imbécile de quelqu'un, et encore je reste poli, on est toujours le faible de quelqu'un. Toujours. Paul le dit au verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Si le fort était si fort, pourquoi mépriserait-il celui qui n'est pas fort comme lui? S'il est dans le mépris, c'est qu'il n'est pas libéré de quelque chose. Donc il n'est pas le fort. Il est parfois fort sur un truc ou deux. Et l'autre? Si le faible était si sûr de ses choix, je bouffe pas de la viande parce que c'est comme ça, ou je mets le truc sur la tête, ou je ne veux pas voir une femme, ou je ne sais pas. S'il était si sûr de chez soi, il n'aurait pas besoin de juger l'autre. Puisque si tu juges, c'est quelque part, tu as peur que l'autre ne pense pas comme toi, donc tu le punis parce qu'il fait du mal à la société dans le vrai jugement. Donc, d'être et dans le mépris et dans le jugement, qu'on soit fort ou faible dans la foi, c'est la preuve qu'on n'est pas complètement libéré, qu'on n'est pas dans l'objectif final que Dieu veut pour nous. Et déjà, ça place la notion de faible et de fort sur un piédestal qui est beaucoup moins haut. Car, et c'est ça qui est important, Dieu seul connaît le cœur de chacun. Regardez le verset 4 qui suit. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Mais s'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. C'est ça que dit le verset 4. Il dit, qui es-tu, toi, pour dire je te méprise ou je te juge parce que tu crois ça ou que tu fais pas ci ou que tu fais ça ou que tu manges ça ou que tu t'habilles comme ça? Tu es qui, toi? C'est bien dit. C'est moi qui suis le maître de cette personne que tu juges ou que tu méprises. Et moi, je sais pourquoi est-ce qu'elle fonctionne comme ça. Et je sais qu'elle fait comme elle peut. Alors moi, j'ai le droit, puisque je suis le maître, d'avoir un jugement sur elle. Et juste après, il est dit, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Lui qui aurait le pouvoir de mépriser ou de juger, non seulement il ne le fait pas, il voit la situation, mais en plus, la personne qui est dans la difficulté, dans la faiblesse, lui, il va l'aider. L'important, en fait, c'est pas la barrière que l'on se met ou non. Et quand je mets barrière encore, chacun voit midi à sa porte. L'important, c'est la raison pour laquelle on édifie cette barrière. C'est le verset 5 qui nous dit ça. Tel fait une distinction entre les jours, tel l'autre les estime tous égaux. Donc je vous avais dit, parce qu'il y avait le jour du sabbat, etc. Mais vous pouvez mettre ça sur n'importe quelle distinction entre les jours, entre les vêtements, entre les loisirs, entre les sexes, etc. Mais que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est la conviction qui est importante. Si elle est pleine, c'est marqué, elle donne raison autant aux faibles qu'aux forts. Si je suis faible, je dis je ne mange pas de viande, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Si j'ai la conviction pleine que c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément, je suis tout autant crédible que celui qui va penser le contraire en se pensant et en se croyant, peut-être à juste titre, plus fort pour ne pas se priver de cette chose-là. Jésus, par son sacrifice, nous a remplis de la certitude de sa présence, de sa grâce. On peut tous en témoigner ici. Mais notre doute à son égard devient une faute terrible. C'est celle contre l'esprit. Et à la fin du chapitre 14, verset 23, donc on fait un saut. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Là, déjà, toutes nos certitudes sur qui est fort, qui est faible sont ébranlées parce que on vient de voir que fort et faible, ben ça se discute. Et en plus, les deux sont respectables dès qu'ils mettent leurs convictions dedans. Mais il nous est bien dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc dès l'instant où ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on ne veut pas voir chez l'autre, mais qu'on vient voir chez soi, etc., si on n'est pas certain que c'est le produit de notre pleine conviction, c'est péché. Donc c'est faux, donc c'est tort, donc on est à côté de la cible. Et je vous rappelle que dans un, je crois que c'est le livre des Colossiens, Dieu nous dit, pensez juste. Dieu est avec vous dans la pensée pour que vos pensées soient claires, soient précises, soient nettes. La conviction, elle vient de là. Cela doit ébranler nos certitudes sur tous ces détails, futilités que nous embarquons dans nos vies et nos églises. Est-ce que nous sommes dans la conviction pleine de ce que nous faisons? Ou bien nous sommes dans la perpétuation d'une tradition, de quelque chose qui nous rassure, mais sur laquelle on n'a pas réfléchi en termes de conviction par rapport à Dieu? C'est le verset 6 qui nous met le doigt dessus. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, il est bien dit, celui qui mange, c'est pour le Seigneur, parfait. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur, parfait. Donc, chacun est du même côté. Mais, c'est bien dit, c'est pour le Seigneur. Est-ce que nos barrières ou nos libertés sont pensées et faites à la gloire du Seigneur ou à notre gloire à nous, pour nous arranger, pour nous satisfaire, pour ne pas nous affoler, pour nous bichonner? C'est là la vraie question que pose Paul. À partir de là, si vous y répondez parfaitement, que tu manges ou que tu ne manges pas, que tu t'habilles ou que tu ne t'habilles pas, vous connaissez le ping-pong, ça, tout aussi valable. Moi, j'ai beaucoup de gens, enfin quelques personnes, quand ils me connaissent, ils disent: Oh, c'est incroyable, tu bois pas, tu fumes pas, tu prends pas de café. Waouh! Je déteste ça. C'est-à-dire, non, je peux être là, je suis très très fort face à la cigarette, face à l'alcool. Je n'aime pas ça, ça me dégoûte, j'ai aucun mérite. Mais vu de l'extérieur, j'ai peu donné le sentiment que ma liberté est le fruit d'une foi, d'un effort, d'une conviction. Tu parles, ça me fait vomir. Aucun mérite. Par contre, les petits pots au chocolat, là, ça y va. Et depuis que j'ai du cholestérol, je ne peux plus prendre de petits pots au chocolat. Ça fait 6 mois que je bave. Et là, je souffre. Là, je me mets une barrière terrible. Du coup, excusez-moi de cet aparté, mais bon. Paul, à l'aune de ces versets qu'on vient de lire, repose les termes du verset 3. Je rappelle le verset 3. Que celui qui ne mange ne méprise point celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Et au verset suivant, il va reposer cette question, mais après déjà avoir expliqué tout ce que je viens de dire, est-ce que tu as la conviction pleine de faire ce que tu fais? Et si tu as la conviction pleine, est-ce que tu le fais pour le Seigneur, qui est maître de la vie et de la mort? C'est marqué. Ou bien, c'est un prétexte pour t'arranger toi-même? Verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? C'est beaucoup plus violent. Avant, c'était ne méprise pas. Maintenant, c'est un doigt qui se pose sur nous. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Donc le juge, hein, c'est pour le faible vers le fort, et le mépris, c'est du fort vers le faible. Donc, tout le monde en prend pour son grade. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Lorsque nous rendrons compte à Dieu pour nos actions, et non celles du voisin, quand on sera face à Dieu, on aura passé l'arme à gauche le plus tard possible, j'espère, on sera face à lui. Mais on va parler de quelles actions? De celles du voisin, de toi qui mets une cravate, de toi qui ne veux pas que les femmes ceci, de toi qui penses qu'il faut pas aller voir tel film. Non, on va parler de tes actions à toi, à moi. Et là, que sera devenue ma force dans la foi par rapport à Dieu? Ah, évidemment, par rapport à certains qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, je parais très très fort. Mais quand je serai face à Dieu, mais la cigarette, il n'en a rien à battre. Mais rien à battre. Mais tu rigoles. Face à Dieu, notre force de la foi sera ridicule quand on compare à ce que Jésus a montré de vraie force de foi dans sa vie terrestre, face aux puissants, face aux faibles, aux méchants, aux malades, aux gens perdus, aux juges, à ses bourreaux. Il a toujours été libre, lui. Relisez, tous ses actes sont des actes de liberté. Et ça rejoint ce que disait sur le rapport aux autorités. Il a défié les autorités, mais sans jamais. Enfin, il a gardé aux autorités la force que Dieu leur avait donnée, et en même temps il s'est posé non pas en rebelle, parce que ce n'est pas le terme, mais en quelqu'un qui va plus loin que cette autorité-là. Quand il dit à Pilate, toute l'autorité que tu as, sache que c'est mon Père qui te l'a donnée, il résume tout ce rapport aux autorités qui est là. Lui, il a tout assumé, parce qu'il avait la liberté suprême d'être bloqué par aucune terreur personnelle, ou s'il les avait, il ne les montrait pas. Et nous, mais nous, rien, mais rien. Face à Dieu, quand se poseront les vraies questions, notre force de foi, elle sera ridicule. Donc, après s'être posé la question de la conviction pleine dont on a parlé tout à l'heure, posons-nous donc la question de la conscience. Est-ce que ces convictions que nous mettons en avant, qu'on est sûr d'être dans la vérité, sur ces détails-là, est-ce qu'en vraie bonne conscience, on est vraiment sûr à 100% que c'est au nom de Dieu ou pour le bien de Dieu que nous les mettons en place et que nous les appliquons sur les autres? Face à tout ce constat, donc vous voyez, ces 12 premiers versets sont hyper bien construits, on arrive au verset 13 qui du coup sonne comme une évidence. Regardez, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Ce donc, pour qui est un peu fait de français, c'est le donc, puisqu'on a tout démontré de 1 à 12, on n'a plus aucune raison de se juger. les uns les autres, ou de se mépriser, puisque je viens de vous démontrer que c'était du vent, que ça ne reposait sur rien. Et juste après la conviction et la conscience, on arrive au troisième pilier de Paul dans ce chapitre, c'est la considération. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et il applique pour lui-même ce principe au verset 14. Je sais et je suis persuadé que le Seigneur Jésus, par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Je sais et je suis persuadé. Je sais, c'est la conviction. Je suis persuadé, c'est sa conscience. Donc lui, il est complètement à fond là-dessus. Il sait que rien n'est impur. Il n'y a pas de problème. Mais il aborde, même lui, le numéro 3 de son triptyque, qui est la considération. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Et pour la première fois dans ce chapitre, il parle de l'amour, qui n'est pas une base, qui n'est pas un principe de départ, mais qui est un principe d'arrivée. Tout ce qu'on a dit, depuis Adam, Abraham, tout le chapitre, tout ça, jusqu'à ça, on arrive à l'amour. Mais si tu commences par l'amour, c'est un principe creux, c'est un principe vide, c'est très très joli, mais ça repose sur rien. Il faut que ça repose sur tout le reste pour que l'amour, du coup, devienne une évidence. Et du coup, c'est peut-être moins compliqué de le mettre en pratique. Et tout ça est formidablement conclu au verset 16 et 17. Donc il continue, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Privilège, c'est-à-dire que celui de notre marche en Christ qui peut-être a amené certains d'entre nous à être plus en avant dans la compréhension de cette liberté qui nous délivre. Que ce privilège-là qu'on a, nous, de mieux comprendre parce qu'on a été plus loin, ne soit pas sujet de calomnie pour quelqu'un qui n'est pas encore en état de comprendre ça parce qu'il n'a pas atteint ce niveau de liberté. Pour moi qui aime les lettres, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, c'est une phrase magnifique qui dit profondément ce que doit être notre rapport à l'autre dans notre Église. Et le verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Dit autrement, « Car le royaume de Dieu qu'on vous a construit depuis Adam jusqu'à maintenant, dont vous êtes les dépositaires, ce n'est pas d'aller vous mettre sur la tête à cause de ce que vous mangez, ce que vous buvez, de 1000 détails qui n'ont aucun intérêt, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Là encore, il remet, comme au verset 1, les choses d'équerre. Bon, maintenant, on va se calmer. Je vous ai expliqué pourquoi ça n'avait pas de sens. Maintenant, on revient à l'essentiel que je vous explique depuis le début. Mais cette histoire de liberté qu'on a tous plus ou moins gagnée, liberté au sens divine du terme, c'est notre histoire privée entre Dieu et nous. C'est qu'on ne va pas aller vers l'autre et dire « Écoute, je me permets de te dire ça parce que moi, comme dans les jeux vidéo, je suis au seuil +++, donc j'ai compris que le petit manga, il est bouffé, ça pisse au bout d'un cas, donc crois-moi, ne fais pas ça parce que tu te plantes, parce que je le sais. » Non. C'est une histoire privée entre Dieu et nous. On n'a pas un permis de conduire à point qui nous autorise à nous dire meilleur conducteur que notre voisin parce qu'on a été plus loin dans notre perception de la liberté divine. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres pour gagner la course vers Dieu. Je reviens à ce que j'entendais ce matin à la radio. Il y a autant de médailles d'or potentielles que de candidats sur la ligne de départ. C'est bon à savoir. Le fort et le faible en la foi montrant autant l'un que l'autre sur le podium. Soyez rassurés à ce sujet, mais c'est dur à accepter pour nous parce que ce n'est pas notre mode de pensée. Petite anecdote encore. Lorsque j'étais instituteur, chaque année, il y avait un cross avec toutes les écoles du canton. Donc, ils étaient là, il y en a plus fort qui se battaient, on va gagner, tu vois, c'était sympa. Puis un jour, je lui ai dit, mais c'est débile, on est une classe de 25, on est en train de se faire du mal à l'intérieur, de se battre, on va créer quelque chose d'autre. Donc, j'aurais dit, écoutez, on va faire un groupe de 25, on va courir ensemble, un paquet. Et on va courir au rythme médian que tout le monde peut suivre. Alors évidemment, les plus forts disaient, mais non, attendez, moi j'avais une chance de gagner la médaille, j'ai pas. Puis les plus faibles, de toute façon, moi je suis nul, je ne pourrais pas, tout le monde se moquera de moi, etc. Je dis, écoutez, on va essayer. Donc pendant 3 mois, on faisait des tours pour qu'ils restent groupés. Mon Dieu, c'était des CM1, CM2, mais au bout de quelques mois, ils avaient compris. Et ceux qui couraient les plus vite et qui étaient, hein, ils attendaient, ils soutenaient. Et le jour du cross, alors ils sont 300, hein, c'est une tuerie. Ouais, ouais, partez. Alors ils sont tous partis, c'est de toutes les écoles. Et puis j'avais mon groupe de 25 qui avait leur rythme parce qu'ils savaient quel était le bon rythme, etc., etc. Et ils sont arrivés. Évidemment, ils sont ni arrivés premiers ni arrivés derniers, mais il y avait un paquet qui était ensemble, qui suivait tout. Et à la fin, on parlait que de ces gamins-là qui avaient fait le truc ensemble et qui étaient heureux d'avoir ramené la pauvre grosse qui n'arrivait pas à courir, ou le petit maigrelet qui soufflait, et tu avais les fiers à bras qui étaient là. Vous voyez, c'était extraordinaire. Bon, ça ne durait qu'un an, parce que le directeur, après, il me tombait dessus, mais tu n'as pas ramené les médailles, tu ne te rends pas compte. Enfin, voilà. Puis même les parents n'étaient pas très, très contents, parce qu'ils étaient venus pour « Vas-y, Robert! Vas-y, Jojo !» Alors, je vous rassure, quand ma fille a fait le cross quelques années plus tard, j'étais le premier à crier « Vas-y, Jojo !» parce que c'était comme ça. Mais bon, la maîtresse n'avait pas mis ça en place, donc moi, voilà. Faible dans ma foi de sportif. Mais voilà, c'est pour vous dire que ne vous en faites pas, on va tous y arriver. Et si on commence par contre à dire « fais pas ci, écoute-moi ça, pourquoi tu fais ça, etc. », qu'est-ce qu'on fait ? Dans mon fameux groupe où on est censé arriver ensemble, on fait des croche-pattes à l'autre et le mec il s'écroule sur la piste. Et ça c'est pas possible, c'est pas ce que veut Dieu pour nous. Et c'est ce qui est dit dans les versets suivants. 18, celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ça marche autant pour lui et ça fait autant du bien aux hommes qui sont autour. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Alors il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Et on arrive de nouveau à cette individualisation de la relation, et j'ai quasiment fini. 7 verset 22, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Encore une fois, on est dans un rapport individuel avec Dieu. Comme Abraham au début de l'épître. Abraham qui seul, en croyant à la promesse de Dieu, a finalement fait que la circoncision n'était plus utile. On y revient toujours. La foi est une question personnelle entre lui et moi. Et donc d'honnêteté absolue. Si je jure un truc à un groupe de gens, je ne suis pas très honnête, ce n'est pas grave. Mais si en face de Emmanuel, je lui dis « je te promets que ça va être ça ou ce truc », je ne peux pas lui mentir, sinon ça va se voir gros comme le nez. Et Dieu sait, au milieu du visage. Donc, il nous faut l'honnêteté absolue dans cette relation. Et c'est ce que dit le verset suivant. « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » C'est une phrase aussi extraordinaire que celle que je vous avais lue tout à l'heure et que j'ai perdue. Peut-être la retrouvez-vous vous-même. Je ne sais plus. Vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était... Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Et je rajoute ça donc. « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » C'est-à-dire heureux celui qui, en imposant une croyance qu'il pense être bonne, en fait, il pose sa propre condamnation. Mais, ensuite, on a le truc sur la conviction, et là, je déborde sur le chapitre 15, qui est en fait la fin du chapitre 14. Mais cette honnêteté-là, ce n'est pas une humilité contrainte. Il ne faut pas non plus tomber, non, je ne suis rien, je ne suis pas capable, etc. Nous pouvons tous, à un moment de notre vie, être certains de nos convictions, de notre conscience, et donc de notre force dans la foi, à certains moments, ou sur certains domaines. C'est la croissance du chrétien, voulue par Dieu. Hein, on n'est pas toujours des bébés, on grandit. C'est le chapitre 15, versets 1 et 2. Nous qui sommes forts, là encore, c'est pas très pédagogique, pas très diplomatique. Ben moi, je suis fort, je vous le dis. Moi, je maîtrise, dit Paul. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Cette certitude d'être fort ne doit pas être une porte de prison qui se referme sur celui qui n'est pas comme nous, mais ça doit être une porte d'entrée qui le fait venir vers nous. Et le verset 3 donne, donc verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Nous avons l'exemple suprême de Jésus, qui n'a pas fermé des portes, alors qu'il aurait pu toutes les fermer, qui les a toutes ouvertes pour qu'on puisse aller vers lui. Et ensuite, les versets 5, donc, que le Dieu de la persévérance... Alors, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, pour parvenir à cette compréhension de tout ce qu'on vient de dire, les Écritures sont là pour nous faire comprendre, nous aider et nous accompagner. Et verset 5, « Et Dieu nous donnera la persévérance et la consolation pour nous supporter les uns les autres dans l'unique but de glorifier Dieu. » Tout ça, depuis le début de l'arrivée d'Adam, tout ce qui a été récité, c'est pour glorifier Dieu. Sinon, tout ça n'a aucun sens. Et c'est extraordinaire, c'est que ce chapitre se termine au verset 7, exactement par la même phrase que le début du chapitre 14. C'est pour ça que j'ai été jusque-là. Verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et regardez le verset 1 du chapitre 14, « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » On est nouveau dans l'accueil, mais ce n'est plus du tout le même accueil. Là, la boucle est bouclée. Méprisez notre frère qui est faible dans la foi, discutez de ses opinions. C'est exactement ce que Dieu n'a pas fait avec nous et qu'il ne fera pas avec nous lorsqu'il nous accueillera après notre mort. Lui, accueillez-vous les uns les autres. Avant, c'était ne discutez pas les opinions, mais maintenant, il donne la vraie raison. Comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. L'accueil que l'on fait aux autres, c'est simplement la réponse à notre échelle de comment on a été accueilli, nous. Parce que sinon, nous, les faibles dans la foi, croyez-moi, il avait de quoi nous punir et nous dire qu'on était vraiment complètement à côté de la plaque. La seule chose importante, c'est la foi. C'est le salut gratuit. C'est ça que dit Romain. Tout Romain est là-dedans. C'est ce qui fait que quand on visite d'autres églises, on fait des voyages parfois, ou des... ça nous arrive, on va dans les églises où les niches sont très différentes, tous ces petits détails sont très différents. Pourtant, immédiatement, on se sent bien, parce qu'on sait qu'on rencontre d'autres chrétiens et qui on partage la chose essentielle, la foi. L'espérance, et on est super contents ensemble. Alors, on ne reste pas longtemps parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas de notre truc, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est notre foi partagée. Tout le reste n'est que futilité. Je vous remercie.